dès la première page, je fais connaissance avec des personnages. Je m'embarque avec eux dans de drôles d'aventures, passé, présent et parfois même futur. Un livre, ça délivre, ça détend et ça rend ivre. Plongé dans un bouquin, ça change et ça fait du bien. Fini les galères, fini les misères. J'oublie mes soucis, j'oublie même qui je suis. Et d'un seul coup.
Bonjour, avec l'Oiseau Délire, nous sommes là pour vous faire partager nos coups de cœur. Et aujourd'hui c'est Gwen, et aujourd'hui on va parler d'animaux. Voilà, parce que comme vous savez avec moi, en général je prends une nouveauté, et puis avec cette nouveauté je vais en faire un thème, et là ça tombe bien, j'en ai trois des nouveautés. Vive la rentrée littéraire. On va commencer avec un album que j'ai beaucoup aimé spécialement, d'Hélène Radziak et Damien Laverdent, qui s'appelle Les mondes invisibles des animaux microscopiques. Chez Actes Sud Junior. Ces deux auteurs seront là sur le salon du livre d'Evreux le 5 et 6 novembre, ce qui est déjà une très bonne chose. Et aussi, c'est des gens que j'aime beaucoup, parce qu'à chaque fois, ils nous ont déjà fait les grandes histoires des animaux disparus, les histoires des animaux imaginaires, qui sont un mélange de BD et de documentaire. Et là, on est plus proche du documentaire, même si on a des grandes planches pour le dessin. Donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va aborder tout le monde, donc que ce soit l'eau, que ce soit la plage, que ce soit le lit aussi, hein, et tous les animaux microscopiques qui habitent dans ces différents écosystèmes. Oui, même notre lit. Hein. Notre lit est un écosystème en soi. Et c'est magnifique, c'est très documenté, c'est très intéressant. Enfin, moi, j'ai trouvé ça super intéressant sur quelque chose qu'on connaît moins, en fait, finalement, puisque ces animaux microscopiques, comme vous vous en doutez, forcément, on ne peut pas les connaître. Donc, on va voir l'attaque des... On a aussi l'attaque des grignoteurs de la peau. J'ai beaucoup aimé cette planche avec les différents animaux qui peuvent nous piquer. Voilà, comme les moustiques, mais aussi, surtout, les tiques et autres petites créatures. Alors après, je dis pas que ça va vous donner envie de dormir dans votre lit, sachant ce qu'il y a dedans. Mais bon, toutes ces créatures ne sont pas forcément dangereuses pour l'homme déjà. Et en plus, elles sont nécessaires à l'écosystème. Donc très intéressant aussi autour de l'écosystème. Donc un très bel album à partir, moi je dirais, de 8-9 ans. Et on a aussi, bien sûr, comment on grossit en fait. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque page, vous avez x60 ce que ça donne, x100 si c'est vraiment plus petit. Donc c'est vraiment autour des animaux microscopiques. C'est un très très beau documentaire et surtout un superbe album aussi à offrir. Et en plus, peut-être, qui sait, à se faire dédicacer sur le salon. Et le deuxième album est donc un album... cartonné. Et oui, en ce moment, vous avez vu, je fais des albums. Ne vous inquiétez pas, j'ai des romans aussi. Alors, c'est un petit documentaire cartonné chez Gulfstream, ce qui est un éditeur assez spécialisé finalement dans les animaux aussi. Vous allez voir pourquoi après. Finalement, dans la nature en général. Et donc là, c'est un petit documentaire cartonné animé, c'est-à-dire qu'on a des choses à tourner, à ouvrir, mais qui ont une raison d'être, puisque c'est un documentaire sur les animaux, fait par Charles Paulson. Alors je vous le dis tout de suite, c'est un pseudonyme de quelqu'un qu'on connaît, nous, à la librairie, mais je ne dirai rien, puisque après tout, c'est son choix de le faire en pseudonyme, donc c'est pas à moi de diffuser cette information. Et donc on va avoir, par exemple, là, ce que j'ai pris là, c'était le chat, donc c'est une toute petite collection, elle commence, hein. Il y a la grenouille verte, le chat, et il va sortir le loup et la baleine bleue, ou vient de sortir le loup et la baleine bleue d'ailleurs. Et du coup, dans ce documentaire, on va expliquer comment, par exemple, le chat possède un nez formidable pour sentir ses proies, et des super oreilles pour les entendre bouger. Et donc on a une petite chose à tourner, où on voit un animal et c'est marqué « je te sens » ou « je t'entends ». C'est un très très bon documentaire pour les tout petits, une très belle alternative finalement aux premières découvertes Gallimard, en plus jeune, et en plus comme il est cartonné et animé, les illustrations sont sublimes, elles sont pleines d'humour en même temps, et en même temps très parlantes pour un enfant je trouve. Il y a même 2-3 illustrations je pense pour les adultes qui vont lui lire, et c'est très très intéressant. Moi j'ai beaucoup aimé cet album, enfin ce documentaire album, c'est un de mes grands coups de cœur là sur cette rentrée, pour les tout petits, parce que je le trouve très très intéressant et en même temps très drôle juste à lire. Et les deux romans. Alors nous avons d'abord Alexandre Chardin chez Thierry Magnier, Jonah dans le ventre de la nuit. Alors Alexandre Chardin est un auteur, assez jeune auteur au niveau de la littérature, il a publié quelques romans, et cette année il en a un d'ailleurs dans les dévoreurs de livres, donc Le goût sucré de la peur, qui est très bien d'ailleurs aussi. Et Jonah dans le ventre de la nuit, alors c'est une histoire qui est très intéressante. Enfin, c'est un roman pour ados, hein, par contre. Là, on est plus sur du 13 ans déjà. Alors moi, j'ai beaucoup aimé ce roman, puisque en fait, c'est l'histoire de Jonah. Bon, bien sûr, Jonah, il vit dans une famille d'accueil, c'est une charmante jeune femme, non, mais c'est une charmante grand-mère. D'ailleurs, c'est son dernier enfant, comme elle le dit. puisque du coup après sera à la retraite, et depuis que sa mère a craqué en fait, depuis que sa mère a essayé de faire brûler la maison, après que leur père se soit déserté la maison. Donc c'est quelqu'un d'assez particulier, c'est quelqu'un d'assez secret, d'assez réservé surtout, qui aime beaucoup les animaux en général, mais voilà. Et on est en plein mois d'hiver, il commence à neiger, et il voit son vieux voisin qui veut se débarrasser de l'âne a priori, Sorgho. L'âne Sorgho. Et il n'arrive pas à le faire monter dans le camion, bien sûr, c'est un âne. Comme on dit, têtu comme un âne, et ben ça se vérifie. Et le vieux monsieur décide de le laisser là pour l'instant et de retourner chez lui, voilà. Et le jeune garçon s'enfuit dans la nuit avec l'âne. Il prend l'âne, et il s'en va. Il va être rejoint par Aloïse, qui a un prénom assez particulier, puisque c'est A-L-O-Y-S-E, et qui est un peu la tête de Turc en cours, parce que selon lui, il est petit et gros. Voilà, donc tout le monde lui dit qu'il est petit, gros, enfin qu'il n'a... Voilà, vous voyez le genre, hein, je ne vais pas vous faire, les adolescents peuvent être très durs entre eux. Et par contre, il est très prévoyant, puisqu'il a prévu de prendre deux paires de gants et tout ça, donc voilà, ils sont un peu mieux équipés. Et on va les suivre pendant cette nuit, puisque ce voyage va se durer sur une nuit, un peu plus de 24 heures, une journée un peu après. Donc pendant un peu plus de 24 heures, ils vont marcher, ils vont se raconter des histoires, et l'âne sera leur témoin. Voilà, l'âne est le témoin muet, et le témoin qui les observe. Donc c'est vrai que c'est moins une histoire sur les animaux, hein, comme on pourrait le dire, c'est pas lui le centre du récit. Mais par contre, il est là pas comme un narrateur non plus, il est juste là comme un spectateur de ces deux garçons qui sont assez brisés finalement l'un et l'autre. Aloïs, on va découvrir que c'est pas seulement qu'il a une tête de Turc, mais il a aussi d'autres problèmes à gérer à la maison. Le fait qu'ils sont assez blessés ces deux-là, et le jeune garçon, Jonah, bien sûr, s'inquiète énormément pour sa mère, qui est sous médicaments et qu'il n'a pas revu, puisqu'il est en famille d'accueil, ce qui n'est pas très drôle non plus à vivre. Donc ces deux gamins vont se parler, ils vont se raconter des choses, ils vont parler de choses et d'autres, de leur vie aussi, beaucoup d'humour aussi, ils vont beaucoup discuter finalement, et de cette discussion va naître une amitié aussi à la fin de ce roman finalement. Forcément, une fois qu'on a traversé la nuit dans la neige ensemble, on peut considérer quand même qu'il va y avoir beaucoup plus de choses entre eux après. Donc c'est un très beau roman sur l'adolescence, sur parfois aussi les vies de famille, sur les secrets de famille aussi encore une fois. Et sur le fait, je trouve une belle histoire d'amitié, sur la nature aussi, puisqu'on va découvrir toute la nature en hiver, la nuit. Et c'est très très beau d'ailleurs, puisqu'on n'est pas loin des montagnes, c'est très joli. Voilà. Et mon dernier pour aujourd'hui, mais pas des moindres. L'éveil. Stade 1, donc tome 1 en fait, hein, je vous le dis tout de suite, de Jean-Baptiste de Panafieux chez Gulfstream Éditeur. Voilà, alors Gulfstream Éditeur, toujours, hein, vous voyez, qui publie aussi quelques romans, alors souvent des romans fantastiques d'ailleurs, en ado. Donc là c'est pareil, c'est du ado hein, quand même. Et Jean-Baptiste de Panafieux est quelqu'un qui fait beaucoup, beaucoup, mais vraiment beaucoup, normalement documentaires en fait, de documentaires autour des animaux et de la nature en général, surtout les animaux. Donc c'est pour ça que j'étais assez curieux de le lire, puisque c'est son premier roman. Si je me trompe pas, et du coup j'ai fait bon, on va essayer. Ouais, et c'est super bien. Il n'y a pas d'autre mot. Alors qu'est-ce que c'est que l'éveil ? L'éveil, c'est qu'un jour, quelqu'un a créé un virus. Un virus qu'il fallait pas, d'ailleurs. Ce virus était en fait quelque chose, pendant que les téléphones sonnent, ce virus est quelque chose qui normalement permettait de mieux contrôler les animaux pour qu'ils soient plus calmes. Voilà. Avec des créations de fermes et autres. Sauf que du coup, ce virus va pas du tout faire ce qu'il faut. Il va les éveiller, comme on dit. C'est pour ça que ça s'appelle l'éveil, c'est-à-dire qu'ils vont s'éveiller à la conscience. Puisque, voilà, je sais pas si vous savez, mais c'est un des grands débats dans la philosophie, c'est de savoir quelle est la différence entre les hommes et les animaux en général. On dit que la différence se fait parce que les animaux n'ont pas conscience d'eux-mêmes, en fait. Ils obéissent à un instinct primitif en général sur plein de points. Ils sont beaucoup plus instinctifs que nous, mais ils n'ont pas conscience d'être eux-mêmes. Ils n'ont conscience que d'instinct. Et là, cet éveil fait qu'ils se disent « je suis ». Je suis. Et à partir du moment où on est « je suis », on peut donc apprendre, on peut envisager la différence, on peut envisager plein de choses. On peut aussi envisager la guerre, par contre, aussi. Bien sûr, les animaux n'échappent pas aussi à ces règles, finalement, peut-être. En tout cas, certains, tels la corneille qui a décidé de conquérir le monde. Et on va suivre dans la première partie du roman l'éveil de différents animaux. L'éveil du perroquet, qui va devenir quelqu'un de très intelligent et avec un humour un peu particulier. L'éveil du chat, qui lui sera un chat, en fait. s'en moque un peu de tout. En fait, c'est un vieux chat patachon et du coup, il n'est pas très intéressé par le reste. Celui de la corneille, donc, qui, elle, a déclaré que ce serait la guerre. Et surtout, l'avantage, c'est quand on n'est pas éveillé, on ne peut pas lutter. Ils utilisent des stratégies. Ils regardent la télé, ils regardent Internet, les animaux. Ah bah oui, ils sont éveillés, ils ont conscience, ils ont faim d'apprendre, justement. Ils ont faim d'apprentissage tel le... Et donc, tous ces animaux vont s'éveiller au fur et à mesure. Donc, qui au début, ce qui paraît drôle à certaines personnes quand ils vont être au courant, puisque du coup, l'éveil d'un chat ou l'éveil d'un chien, c'est pas mal. Sauf qu'à partir du moment où le chien ne veut plus obéir parce qu'il a dit, bah, pourquoi je devrais t'obéir en fait ? Ok, t'es mon maître, je suis censé t'aimer, mais moi, je suis éveillé maintenant. Ça devient moins drôle. Et puis, imaginons que l'éveil se transmet à d'autres animaux beaucoup plus dangereux, les lions et autres créatures. Ça peut devenir extrêmement dangereux. Et ça va être ça, le point du récit. C'est de savoir comment ces animaux vont réagir à l'éveil, puisque l'éveil, en fait, va se transmettre très très rapidement dans le roman, de façon assez exponentielle, finalement, puisqu'il va être transmis par les morsures, par le sang, puisque c'est un virus qui se retrouve dans le sang. Et ce virus va passer, en général, par les morsures. Alors, à partir du moment où un rat va l'avoir, vous doutez bien que le nombre de rats qui existent sur Terre, l'éveil passera très 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 vite un peu partout. Donc on va suivre d'un côté les animaux et des humains donc qui seront ensemble en fait, donc avec un perroquet, un chat, un chien d'ailleurs, qui cherchent à monter, à comprendre comment ça marche et à ne pas changer les choses, mais en tout cas à essayer de comprendre puisqu'ils vont être poursuivis d'une part par les animaux qui sont en colère, donc on arrive presque à une guerre là à la fin du premier roman d'ailleurs, et d'autre part par la société qui a créé le virus, qui voudrait bien le faire disparaître ce virus quand même, parce qu'à la base c'était pour mieux contrôler les animaux et les rendre plus sages on va dire. Bref, qui se laisse faire quand on les emmène à les abattoirs et tout ça. Ben, ça a raté. Donc, du coup, ils veulent bien faire disparaître ce virus. Mais comment faire ? Ils vont avoir ce problème. Donc, moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Enfin, déjà, c'est bien écrit. Alors, c'est vrai que le début est un peu long, en fait, dans le sens où on parle d'éveil et finalement, on n'a pas de fil rouge qui va arriver tout de suite. Le fil rouge arrive un peu plus tard. Mais ce fil rouge est vraiment très intéressant puisque, du coup, à partir du moment où l'éveil sera connu de tous... comme des fermiers, comme la presse qui va en parler, parce qu'au début ça ressemblait juste à une blague sur internet, ces gens qui essayent de faire parler, on est persuadé qu'ils ventriloquent puisque l'animal parle, on fait ah c'est une blague, et sauf qu'au bout d'un moment ces blagues ne sont plus des blagues. Est-ce qu'on considère toujours que les animaux sont donc si je ne me trompe pas maintenant des biens immobiliers dans le droit, ou est-ce que ce sont des personnes à part entière? Va-t-on devoir leur donner le droit de vote? Enfin, vous voyez ce que je veux dire, il y a tout un pan de la civilisation qui a repensé, et ces animaux aussi qui s'éveillent ont tout un pan à eux à repenser. Puisque certains donc, font la guerre, comme la corneille. D'autres veulent monter une espèce de religion. On ne sait pas trop, c'est les chiens qui veulent monter ça. C'est peut-être le côté meute des primitifs animaux qui fait ça. Mais vous voyez, tous ces animaux ont une sorte de deuxième vie, en fait. Et ils ne veulent pas forcément la lâcher au profit du virus qu'on disparaisse avec un antivirus. Donc toutes ces choses vont se retrouver mêlées, entremêlées. Et c'est vrai que moi j'ai trouvé que c'était un super roman, parce que très intéressant, et très intéressant aussi autour du côté, justement, je pense de quelque chose qui touche Jean-Baptiste de Panafieux autour des animaux, c'est-à-dire le côté aussi philosophie autour des animaux, donc est-ce qu'à un moment l'animal est conscient. Donc voilà, donc moi j'ai trouvé ça super intéressant, c'est un très bon roman, le premier volume vient de sortir, alors il va pas falloir trop s'enflammer, parce que le deuxième volume je pense qu'on aura un peu de temps, mais voilà, moi j'ai adoré, je vous le conseille vivement. Que vous aimiez ou pas les animaux d'ailleurs. Et j'espère que cette émission vous a plu autour des animaux. Et n'oubliez pas, les livres s'empruntent en médiathèque, s'achètent en librairie. Et on se retrouve bientôt d'ici 15 jours. Au revoir, bonne journée.
Un livre, quand tu l'ouvres, tout ce que tu y découvres, ça paraît infini pour un truc si petit. Un livre, quand tu l'ouvres, tout ce que tu y découvres, ça paraît infini pour un truc si petit.